Vous êtes bien sur Radio Orient, il est 17h pour votre magazine d'information Nawel El Amouchi. Au septième jour, la guerre se poursuit entre l'Iran et Israël. Un hôpital du sud d'Israël a notamment été touché. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prévenu, je cite, que les tyrans de Téhéran paieront un prix lourd après ces nouvelles frappes. On reste au Proche-Orient, à Gaza. Au moins 72 personnes, dont 21 venues chercher de l'aide humanitaire, ont été tuées aujourd'hui par l'armée israélienne, selon la défense civile. Et enfin, dans l'Hexagone, Météo France a décrété la vigilance orange canicule à partir de demain midi dans 16 départements, majoritairement dans l'ouest de la France. Une vague de chaleur précoce est prévue de la Bretagne aux Charentes, en passant par le centre Val-de-Loire. Et toujours pour demain, une canicule précoce, cette fois-ci, est prévue sur le Rhône et l'Isère. Tout d'abord, dans notre point actualité, le septième jour de la guerre entre l'Iran et Israël a débuté par un nouvel échange de frappes. Un hôpital a été touché dans le sud d'Israël. Il y aurait au moins 47 blessés dans le pays, selon les secours sur place. L'ONU a jugé épouvantable de voir que les civils sont traités comme des dommages collatéraux, je cite, dans cette guerre. Et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prévenu que les tyrans de Téhéran, je cite, paieront un prix lourd après ces nouvelles frappes. Et du côté de l'Iran, les gardiens de la révolution, l'armée idéologique, ont affirmé que cette attaque ciblait le centre de commandement et de renseignement du régime situé à proximité. Alors que plus tôt dans la journée, l'armée israélienne a mené des frappes en Iran, notamment à Téhéran, où elle a frappé notamment des sites nucléaires. La Russie a mis en garde les États-Unis contre toute intervention militaire dans le conflit. Et sur le volet diplomatique, les ministres des Affaires étrangères allemands, français et britanniques rencontreront ce vendredi à Genève leur homologue iranien. On reste au Proche-Orient, à Gaza. Au moins 72 personnes, dont 21 venues chercher de l'aide humanitaire, ont été tuées aujourd'hui par l'armée israélienne, selon la défense civile. En France, dans l'affaire du petit Grégory, la grand-tante de Grégory Villemain doit être convoquée devant la justice en vue d'une possible mise en examen 40 ans après le meurtre du garçonnet. Elle a réaffirmé sa totale innocence via un communiqué de ses avocats. Et Météo France a décrété la vigilance orange canicule à partir de demain midi dans 16 départements, majoritairement dans l'ouest de la France. Une vague de chaleur précoce est prévue de la Bretagne aux Charentes en passant par le centre Val-de-Loire. Mais dans ces départements, la journée la plus chaude est prévue ce samedi. Et une canicule précoce est notamment prévue demain sur le Rhône et l'Isère. Et on finit sur une page de foot avec la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Le club égyptien d'Al Ahly ouvre dans environ une petite heure la deuxième phase de poule. Coup d'envoi à 18h heure française face au club brésilien de Palmeiras. C'est la fin de votre point actualité. Place à présent aux principaux dossiers de votre magazine d'information. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place au tour d'horizon de l'actualité. Cap tout d'abord sur l'actualité au Proche-Orient, avec cette guerre qui se poursuit entre Israël et l'Iran. Quelle est la position de la France sur ce conflit? On écoute Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, pour qui il n'y a pas de solution militaire au problème du nucléaire iranien.
La France refuse, et depuis longtemps, que l'Iran puisse accéder à l'arme nucléaire, ce qui soulèverait des risques insupportables pour Israël, pour la région, pour l'Europe, mais également et plus largement pour l'ordre international. Pour autant, la France considère, et depuis longtemps, qu'il n'y a pas de solution militaire au problème nucléaire iranien. C'est la raison pour laquelle nous appelons aujourd'hui à la retenue, à la désescalade, à l'arrêt des frappes, et nous disons d'ailleurs que toute nouvelle frappe soulèverait des risques substantiels sans permettre pour autant d'éliminer définitivement le programme nucléaire iranien. C'est la raison pour laquelle nous appelons l'Iran à se rendre disponible immédiatement à la poursuite de négociations. Négociations auxquelles nous nous tenons prêts à participer puisque nous les avons conduites il y a 10 ans, que cela fait des mois que nous avons, avec les Britanniques et les Allemands, réamorcé ce travail à l'approche de l'expiration de l'accord sur le nucléaire iranien et que nous avons les idées très claires sur la manière d'obtenir des engagements de la part de l'Iran sur ce programme nucléaire. Ensuite, la France rejette ou dénonce l'attitude du régime iranien vis-à-vis de son propre peuple, vis-à-vis de la région et vis-à-vis de la France et de ses intérêts. C'est le programme nucléaire, le programme balistique que nous avons évoqué. C'est la livraison à la Russie de centaines de missiles, de milliers de drones dans la guerre d'agression contre l'Ukraine. C'est la répression du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et c'est la détention arbitraire de Jacques Paris et Cécile Kohler, otages depuis 3 ans, otages d'État, comme vous l'avez dit. Pour autant, la France défend et promeut le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et elle considère qu'on ne vient pas provoquer de changement de régime par la force, qu'il appartient au peuple de décider de leur propre destin et qu'elle fait confiance au peuple iranien pour décider du moment et des circonstances pour se libérer de ce régime contre lequel il a héroïquement résisté. C'est dans cet esprit-là que nous appelons les parties à la désescalade et au dialogue.
C'était Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Et l'éventualité d'une intervention directe des États-Unis en Iran suscite l'inquiétude d'une large partie de la communauté internationale. Réaction d'Amélia Lacraffi, députée Renaissance de la 10e circonscription des Français établie hors de France.
Je le crains, oui, parce que malheureusement, Trump a un avis un jour et un autre avis le lendemain, donc le risque existe totalement. Après, continuer de bombarder le régime, je pense, est une erreur, même si ce n'est pas à moi de le décider. Mais je pense qu'Israël a largement fragilisé toutes les installations nucléaires de l'Iran et que maintenant, il va falloir passer à la diplomatie. Après, c'est vrai que la diplomatie n'a pas tellement fonctionné et qu'on a laissé l'Iran tuer ses femmes pour une mèche de cheveux et enrichir l'uranium. Donc bon, maintenant qu'on a affaibli vraiment ses capacités, je pense qu'il faut passer à la diplomatie. Parce que on va, à mon avis, potentiellement passer un scénario catastrophe.
Passer à la diplomatie et donc cesser les frappes israéliennes sur l'Iran, c'est ce que vous demandez ?
Cesser les frappes des deux côtés, en fait, et même iraniennes sur les Israéliens. Parce que il faut quand même remettre un peu l'Iran où il est. C'est quand même le seul État qui a dans sa constitution qu'il veut supprimer de la carte un autre État. Il ne faut pas l'oublier non plus. Moi, je pense aux civils, aux pauvres civils des deux pays qui n'ont rien demandé et qu'il faut absolument préserver. Mais il faut, voilà, faut se rappeler que c'est un pays qui a dans sa constitution la destruction d'un autre État et qui interdit aux femmes d'avoir une mèche de cheveux et qui peut les tuer pour ça. Donc il faut peut-être remettre les choses à leur place. Et un pays, pardon, aussi, qui fragilise et qui crée les tensions et les guerres dans toute la région. Je rappelle juste que les Houthis sont armés par l'Iran. Le Hamas, j'en parle même pas. Le Hezbollah.
Vous faites référence à ce que l'on appelle les proxys de l'Iran.
La Syrie, l'Irak, c'est quand même un pays qui détruit tout le Moyen-Orient, qui fragilise et qui vraiment a coûté la vie de plusieurs milliers de personnes, voire millions, qui a soutenu le régime Assad. C'est 1,5 million de morts. Et ça, faut surtout pas l'oublier.
Et dans l'actualité en France, nouveau rebondissement dans l'affaire du meurtre du petit Grégory. La justice française a ordonné un nouvel interrogatoire de Jacqueline Jacob, la grand-tante de Grégory Villemain. Elle a réaffirmé sa totale innocence via ses avocats. Le point avec vous, Salma Darlaoui.
Plus de 40 ans plus tard, la justice française a ordonné un nouvel interrogatoire de Jacqueline Jacob, grand-tante du petit Grégory Villemain, dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de l'enfant retrouvé mort en 1984. Jacqueline Jacob, 80 ans, est soupçonnée d'avoir rédigé une lettre anonyme adressée en 1983 aux parents de Grégory. Elle sera convoquée dans les prochains mois devant la cour d'appel de Dijon en vue d'une possible mise en examen pour association de malfaiteurs criminels. En 2017, Jacqueline Jacob et son époux Marcel avaient été mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort, mais les poursuites avaient été annulées pour vice de forme. Une expertise en graphologie l'avait désigné comme l'auteur d'une lettre anonyme. De nouvelles expertises ont été réalisées depuis. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a demandé à son président de procéder à l'interrogatoire de Jacqueline Jacob et d'envisager sa mise en examen. Le parquet général avait estimé que les éléments disponibles étaient insuffisants pour engager des poursuites. Grégory Villemain, âgé de 4 ans, a été retrouvé ligoté dans une rivière le 16 octobre 1984. Le jour même, une lettre anonyme signée par un corbeau revendiquait le crime. Bernard Laroche, cousin du père de Grégory, a été mis en cause sur la base des accusations de sa belle-sœur, une adolescente de 15 ans, qui est ensuite revenue sur ses déclarations. Il a été inculpé puis libéré avant d'être tué par Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, en mars 1985. Christine Villemain, la mère, a également été poursuivie puis a bénéficié d'un non-lieu. La date de l'interrogatoire de Jacqueline Jacob n'a pas été précisée.
On reste dans l'hexagone, mais dans un tout autre volet. Les maires n'ont jamais autant démissionné dans le pays, avec près de 2200 démissions depuis le début du mandat actuel. On fait le point avec vous, François-Xavier de Calonne.
Ce nombre, entre septembre 2020 et mars 2025, ce sont en moyenne 40 démissions par mois enregistrées, soit plus d'une démission par jour, c'est ce qu'indique une étude réalisée pour l'Association des maires de France. Alors question, pourquoi tant de maires jettent l'éponge? Eh bien ces démissions sont surtout causées par des tensions politiques au sein des conseils municipaux. C'est la cause de 31% d'entre elles, loin devant les passations de pouvoir anticipées, les problèmes de santé, le cumul des mandats. La fatigue, les raisons personnelles ou professionnelles font aussi partie des causes de ces démissions. Alors malgré leur forte exposition médiatique, les agressions d'élus jouent, selon cette étude, un rôle mineur. Si les communes de moins de 500 habitants plus nombreuses sont les plus touchées, avec 42% de maires démissionnaires depuis 2020, les communes de 1 à 3500 habitants enregistrent une vague de démissions sans précédent avec un quart des maires démissionnaires. Plus de la moitié des démissionnaires, 53%, sont des maires nouvellement élus. Les démissions touchent autant les hommes que les femmes, mais davantage les retraités, âgés de 65 à 74 ans. Il y a aussi une disparité selon les départements. Certains sont plus concernés par ces démissions de maires. Exemple, l'Isère, la Haute-Garonne, la Charente, l'Essonne, le Nord ou encore le Tarn-et-Garonne.
La parole à présent à un maire, Olivier Lepic, maire de Carnac, petite commune de 500 habitants dans le Morbihan. Et il n'est pas surpris par ce nombre record de démissions. Il nous explique pourquoi.
Je ne suis pas vraiment surpris parce que je pense qu'entre élus, on en parle et on évoque notre vécu, notre quotidien. La fonction de maire est par essence extrêmement prenante, mais elle devient de plus en plus compliquée parce que pour plusieurs raisons. D'abord, des modifications liées à la gouvernance, l'émergence des intercommunalités qui ont soustrait un certain nombre de compétences aux maires. Qui se plaignent justement de voir de plus en plus éloignés de nos concitoyens des décisions du quotidien. Et dans le même temps, nos concitoyens sont de plus en plus exigeants, de plus en plus agressifs, de plus en plus consommateurs de services. Donc je dirais que les maires sont extrêmement frustrés d'être entre le marteau d'une gouvernance et d'une réglementation de plus en plus compliquée et tatillonne, et puis des concitoyens qui, depuis le Covid, pour schématiser, même si ça avait commencé avant, sont de plus en plus exigeants, voire même agressifs, et on l'a vu dans l'actualité, parfois violents. Donc, si vous rajoutez à ça,
d'élus, oui.
Si vous rajoutez à ça des vies politiques dans les conseils municipaux, peut-être un petit peu moins fluides qu'avant, parce que voilà, à l'échelle et à l'image de ce qui se passe dans la vie politique nationale, on sent quand même une tension à tous les étages dans le pays, qui fait que je pense, enfin qui explique très largement ces pourcentages de démissions inédits dans toute la France, mais également en Bretagne.
C'était Olivier Lepic, maire de Carnac, commune de 5000 habitants, au micro de François-Xavier de Calonne. Ce samedi 21 juin marque non seulement le début de l'été, mais aussi la fête de la musique célébrée dans toute la France. Et si vous ne savez pas encore où aller, Salma Darlaoui a une suggestion pour vous à ne pas manquer.
À l'occasion de la fête de la musique 2025, l'Institut du Monde Arabe organise le Karaoké de la Liberté, un événement festif et participatif en accès libre. Dès 19h, le public pourra chanter et danser sur les grands classiques de la chanson en arabe, en français et en anglais, avec des titres de Céline Dion, Dalida, David Bowie ou encore Khaled. Les paroles seront projetées sur écran géant, permettant à chacun de participer depuis la scène ou la foule. La soirée sera animée par Naïma Yahi et la chanteuse Samira Brahmia. Un concert live d'Abo Gabi et ses musiciens mettra à l'honneur la Palestine avec des chansons traditionnelles et contemporaines, accompagné de danseurs et danseuses de Debke. Une initiation à cette danse collective du Proche-Orient sera également proposée. Le programme comprend un warm-up assuré par DJ Bab, plusieurs sessions de karaoké, des démonstrations de dabké et des concerts live. La fête se poursuivra jusqu'à minuit avec un DJ set pour faire danser le public. Le rendez-vous est donné samedi 21 juin sur le parvis de l'Institut du Monde Arabe à Paris.
Merci à vous, chers auditeurs, pour l'écoute de notre tour d'horizon de l'actualité. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.